بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le samedi, le 25 du mois Safar de l'année 1447 de l'Hégire, correspondant au 8 août 2026. Donc nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette rencontre hebdomadaire pour apprendre ensemble la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran al-Karim, et des bases de notre belle religion. Taïb, nous commençons par la lecture de Sourate Al-Kafiroun. طيب تفضل عائشة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا عائشة. كم بلغتي من العمر؟ أنت من؟ أنت
بلقيس.
أنت بلقيس، ما شاء الله. كم بلغتي من العمر يا بلقيس؟
9 سنوات.
تسع سنوات، أحسنت، جوابك صحيح في اللغة وفي الحقيقة. 9 سنوات وليس 9 سنوات. طيب، على بركة الله، تفضلي، بارك الله فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين.
يا بلقيس، ستعيدين القراءة لكن بتمهل، شوية شوية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أحسنت.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما
تعبدون.
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
ما شاء الله، أحسنتي، قراءة طيبة، بارك الله فيك.
بارك الله.
طيب، معك غيرك؟ Est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi qui parmi tes sœurs؟
أنا عايز.
من؟
السلام عليكم.
عائشة.
السلام عليكم.
أنت مريم.
مريم.
أيوة مريم، نعم. إذا تفضلي يا مريم. نفس الطريقة. تقرأين بشوية شوية. شوية شوية، لا تسرعي في القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملك يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دين
ولا
أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
ولي دين.
ولي دين.
ولي لي لي لام مكسورة. ولي دين.
ولي دين.
أحسنتي، ما شاء الله. كم بلغتي من العمر؟
5 سنوات،
ما شاء الله، أحسنتي.
خمسة ونصف.
خمسون اسمع ليش حنا نصف نتجاوز عنه. بارك الله فيك. طيب عائشة موجودة؟
بارك الله. نعم.
إذا تقرأ إن شاء الله. لعل عائشة لا تريد أن تقرأ. إذا ننتقل للذي بعدها. عبد الله أبو زيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. ما اسمك؟
زيد.
أيوة أنت زيد ما شاء الله. تفضل. كم بلغت من العمر يا زيد؟
11 سنة.
11 سنة. أحسنت. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
اللهم بارك. أنت شيخ. أحسنت. أيوة. أنت تدرس القرآن؟
نعم.
ما شاء الله، لهذا قراءتك جيدة ما شاء الله. طيب معك غيرك؟ أيوة.
نعم.
يتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك؟
داود.
داود تفضل. كم بلغت من العمر؟
7 سنوات ونصف.
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
ما شاء الله ما شاء الله. اللهم بارك. قراءة طيبة جزاك الله خيرا. ما اسمك؟ داود. أنت داود. نعم جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. أحسنت. طيب أنا الآن فقط تذكرت أننا قرأنا سورة الكافرون في الأسبوع الماضي ولم تذكروني بأننا قرأناها، لكن خير إن شاء الله. في الإعادة إفادة، وما تكرر تقرر إن شاء الله. طيب الذي بعد أخينا داود.
السلام عليكم.
Eh ben ça tombe bien pour toi, c'est une opportunité. تفضل يا إسماعيل. الكافرون. سورة الكافرون. T'étais pas là la semaine dernière.
Oui.
Alors t'étais en vacances.
Non, je suis en vacances.
Eh mashallah. في البلاد ولا vacances في البلاد؟
نعم.
Eh, mashallah. T'es originaire de quelle région?
Agadir.
Ah, mashallah. Allahumma barik. Alors, profite bien. طيب, تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
ما شاء الله، أحسنت أحسنت، بارك الله فيك يا إسماعيل.
بارك الله.
طيب ننتقل للذي بعده. ما في الذي بعده؟ من يقرأ؟ كيف يقرأ؟
أنا أتكش بني.
يعني je te vois de je te vois pas devant moi. C'est quoi ton prénom؟
سند
علي. تفضل. أيوة ما شاء الله. كم ما اسمك أولا؟ اسمك سند علي؟ أو هو اسم أبيك؟
أوي.
وايس اللي بخنون طنطا. أي نعم. وأنت ما اسمك؟
سند علي.
أيوة. طيب. سي كوا البخنون دو طنطا؟
نرمين.
نرمين. T'es originaire d'où?
De Bosnie.
Aïwa, mashallah. Donc Narbin a un fils et il me l'a pas dit. Allah le musta'an. T'as quel âge? Quand balagt min al-umr?
9 ans.
9 ans, mashallah. طيب تفضل يا سند علي.
قل يا أيها
الكافرون. ابدأ أولا بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد
ولا أنتم
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
ما شاء الله، قراءتك جميلة، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. تاين بيل ريسيتاسيون ما شاء الله. طيب الذي بعد أخينا سند علي. يلا يعني لا بد واحد يقرأ. إذا كنت لا أرى من فتح اللاقط يتكلم. Comme je vous explique toujours, le but c'est pas de lire pour nous montrer vos qualités, votre savoir-faire et votre maîtrise. Le but c'est de lire et qu'on se corrige ensemble et que vous vous profitez et vos frères aussi profitent. En vous écoutant lire, ils apprennent avec vous également. Donc tout le monde est profitable, tire un profit de cette lecture. Et le fait d'avoir des difficultés, ça pose aucun problème. Le but, c'est d'apprendre. C'est pas un concours pour montrer qui est le meilleur. Taïb, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire? Sinon, on passe à l'explication de cette sourate, inshallah ta'ala. طيب on va passer à l'explication de sourate. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate qui s'appelle sourate al-kafirun, les infidèles, les mécréants, les incrédules, يلدي بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون يدي دي او فو les infidèles او فو les infidèles الله سبحانه وتعالى il ordonne à son prophète عليه الصلاة والسلام de dire clairement et ouvertement aux mécréants de leur annoncer cette vérité qui correspond totalement à la réalité sur laquelle est le prophète alayhi salam ainsi que tous les mouahidines, ainsi que tous les croyants, ainsi que tous les muslimines, tous les soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, de leur dire « La a'budu ma ta'budun » « Je n'adore pas ce que vous adorez. Je n'adore pas ce que vous adorez. » Yani, actuellement, et aussi auparavant, Al-Nabi alayhi salam n'a jamais adoré leur fausse divinité. Al-Nabi alayhi salam a toujours adoré la vraie divinité. Comprenez bien ce point. Al-Nabi alayhi salam a toujours adoré la vraie divinité. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit de leur dire قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ Je n'adore pas ce que vous adorez. C'est-à-dire, le Nabi alayhi salam, il se désavoue de leur culte et de leur égarement et de leur associationnisme et de leur polythéisme et de leur mécréance ouvertement et publiquement. Il se désavoue intérieurement et extérieurement. Il se désavoue de leur pratique égarée dans son cœur et aussi dans son apparence. La a'budu ma ta'budun. Et voilà antum. Voilà antum abiduna ma a'bud. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Voilà antum abiduna ma a'bud. Pourquoi? Malgré que les associateurs, comme leur nom l'indique, associateurs, c'est-à-dire ils adorent Allah, ils adorent autre avec lui. Mais pourquoi le Nabi alayhi salam leur dit que vous n'adorez pas du tout Allah, malgré qu'ils l'adorent et qu'ils adorent autre avec lui? Qui peut répondre à cette question? Répète. Parce qu'il n'y a pas de tawhid. Réponds à Daoud qui voulait répondre.
Zayd.
Naam, تفضل.
C'est parce qu'ils n'adoraient pas Allah seul.
Ya salam. Qu'est-ce qu'elle est magnifique cette réponse. Allahumma barak. Car ils n'adorent pas Allah seul. Et celui qui adore Allah et adore autre que lui, c'est comme celui qui n'adore pas du tout Allah. Car l'adoration n'est profitable qu'avec tawhid, l'exclusivité. Amma, celui qui adore Allah et adore autre avec lui, il est comme celui qui n'adore pas du tout Allah. Car son adoration est caduque, ne lui servira à rien du tout. Allah accepte uniquement de ceux qu'il adore seul, sans rien lui associer. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam leur a dit, vous n'adorez pas du tout Allah, malgré qu'il lui voue des adorations. Vous savez qu'avant l'islam, les Arabes avaient des... Avant déjà, ils étaient sur la religion de Ibrahim, sur le monothéisme pur, les Arabes dans la péninsule arabique. Et le premier homme qui a changé leur religion, c'est un homme qui s'appelle Amr ibn Luhay al-Khuza'i. C'est le premier homme qui a eu le grand malheur de détourner les Arabes de la péninsule du monothéisme pur vers l'associationnisme et l'adoration des statues des idoles. cet homme a fait un voyage vers la Syrie, Cham, la grande Syrie, et il a trouvé que là-bas, ils avaient des... Les gens avaient beaucoup de respect et d'admiration pour ceux qui sont de la grande Syrie. Pourquoi ? À toute époque, c'était comme ça. Pourquoi ? Qui peut répondre ?
Parce que c'était l'endroit d'où venait le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, non. Lakin, c'est l'endroit où étaient envoyés la plupart des prophètes et messagers. Tous les fils d'Israël ont été envoyés dans cette région, la grande majorité d'entre eux. La plupart des prophètes étaient dans ces régions-là. Moussa alayhi salam, Moussa alayhi salam était envoyé en Égypte. Lakin, Isa alayhi salam, Daoud alayhi salam, Sulaiman alayhi salam, la plupart des prophètes viennent de cette région, de la Grande Syrie. La Grande Syrie, c'est ce qui représente aujourd'hui le Liban, la Palestine, la Jordanie et la Syrie. Ces quatre pays qui sont divisés en quatre aujourd'hui, et il y a des tentatives de les diviser encore plus, avant c'était un seul pays qu'on appelait Hacham. Et donc, c'est pour ça que les gens, ils avaient beaucoup d'admiration pour cette région et pour les pratiques religieuses dans cette région. Parce qu'ils savent que la plupart des prophètes et messagers sont de cette région, comme Ibrahim alayhi salam, et ainsi de suite. Païd. Donc cet homme, Amr ibn Luhay al-Khuzai, il a fait un voyage là-bas. Il a vu qu'ils avaient des idoles, des statues, qu'ils vénéraient. Et ça lui a plu. Et il a décidé de ramener la première idole qui sera introduite dans la péninsule arabique. Comment elle s'appelle ? C'est la plus grande pour eux. C'est la plus vénérée.
L'Uzza ?
Non, pas l'Uzza. Celle-là, il l'a citée dans Telbiya, quand il faisait le pèlerinage. Il disait... Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Illa sharikun laka. تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكُ Elle s'appelle Hubal. Hubal. Ça, c'est la plus grande statue, la plus vénérée chez les Arabes. C'est la première qui a été introduite dans la péninsule arabique. Au point qu'il l'a mentionné dans Telbiya, quand il faisait le pèlerinage. Il disait Telbiya comme le Mouahidin. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il rajoutait ? Il disait, tu n'as point d'associé, sauf un seul associé. Regardez la contradiction. Tu n'as point d'associé, sauf un seul associé, que tu possèdes ainsi que tout ce qu'il possède. Yani, ce n'est pas un associé en réalité. S'il appartient à Allah, ce n'est pas un associé d'Allah. Lakin, c'est ainsi. C'est pour ça aujourd'hui, si vous avez affaire à quelqu'un qui vous dit, non, moi je ne fais pas de shirk. Parce que moi, je crois que c'est Allah qui fait tout. Nous lui disons, Kuffar Quraysh, les mécréants de Quraysh, également, ils croyaient que Allah seul fait tout. Ils n'ont jamais cru que les statues créent avec Allah. Les statues donnent rizq avec Allah. Mais leur mécréance était de croire que ces statues étaient des intermédiaires qui pouvaient leur intercéder auprès d'Allah. C'est pour ça que quelqu'un qui fait une adoration pour le Nabi alayhi salam, est-ce que c'est un musulman ou c'est un kafir qui fait une adoration pour le Nabi alayhi salam?
C'est un kafir.
Il est sorti de l'islam, car il a fait le grand shirk, le shirk majeur, qui est de vouer une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cet homme a ramené cette statue, et c'était le début des statues autour de la Kaaba. Et ça a fini par avoir combien de statues il y avait autour de la Kaaba? 365 statues, c'est-à-dire une statue vénérée par jour. Chaque tribu avait sa propre statue. Et Nabi alayhi salam a tout détruit.
Tu as mis ton compte.
J'ai une question à te poser.
نعم تفضل.
Est-ce que ceux qui avaient des statues, 305 statues, est-ce qu'ils étaient aussi 305 statues, 305 êtres humains?
365?
Oui.
Oui.
Ils croyaient en toutes ces statues, là, qu'ils ne les vénéraient pas forcément chacun. Chacune de ces tribus avait sa propre statue et c'était un jour dans l'année, ils vont venir, ils vont la vénérer, ils vont l'adorer autour de l'Kaaba. Et ça, c'est une forme de commerce aussi pour les Mécois. Car à chaque fois que c'était le jour d'une tribu, cette tribu, elle ramenait des offrandes, elle ramenait de l'argent, elle donnait des choses aux Mécois, qui sont soi-disant les gardiens de ces statues. Donc c'est pour ça qu'ils avaient un grand intérêt et un grand commerce et un grand profit financier et économique par rapport au shirk. Et ça, c'est parmi les raisons qui ont fait qu'ils ont refusé le tawhid au début. Parce qu'ils avaient un grand intérêt par rapport à ça. Un grand intérêt financier et un grand intérêt également par rapport au respect et l'estime que les Arabes avaient pour les Mécois. Car c'était eux les gardiens de ces fausses divinités. Taïb. Donc le Nabi A.S. il les a détruits dans la réalité, après les avoir détruits dans les cœurs des hommes. Après leur avoir inculqué ce que c'est Tawhid. Et après les avoir ramenés à la nature humaine saine, qui consiste avouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la suite, après la conquête de Mecca, qui a eu lieu vers la fin de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, l'année 8 de l'Hégire, après cela, seulement, An-Nabi alayhi salatu wassalam a détruit ses statues et les a retirées de Al-Kaaba. Alhamdulillah, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de statues autour de cette Kaaba. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu lieu à des faux. Eshad. Oui. Donc voilà, je disais, Anna Amr ibn Luhay al-Khuzai, c'est le premier homme qui a introduit les idoles dans la péninsule arabique et qui a changé ainsi la religion des Arabes. C'est lui qui les a fait tomber dans, il les a fait tomber dans shirk, le polythéisme. Avant, ils étaient sur la religion de Ibrahim alayhi salam. Voilà. Donc c'est pour ça que Allah a ordonné à son prophète alayhi salam d'annoncer cela clairement et ouvertement aux kuffar. Et de leur dire, La a'budu ma ta'budun, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore non plus, car vous n'êtes pas sincère dans votre adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Wala ana abidum ma abadtum. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, ni dans le temps présent, ni dans le passé, ni dans l'avenir. An-Nabi As-Salam n'adorera jamais leur fausse divinité. Il adore que la vraie divinité qui est Allah subhanahu wa ta'ala, créateur de toutes choses. Wala antum abiduna ma abud. Vous non plus, vous n'adorez pas ce que j'adore. C'est pour affirmer ce sens-là que ça a été répété. Et après, il a marqué un désaveu complet de tous leurs actes égarés et de toutes leurs mauvaises pratiques en disant « Lakum dinukum waliyadin ». Vous avez votre religion et à moi, la mienne, ma religion. La religion de vérité, elle est unique. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire les religions monothéistes, les trois religions monothéistes. Il n'y a qu'une seule religion monothéiste. C'est la religion de vérité, elle s'appelle l'islam. C'est la religion sur laquelle étaient tous les prophètes et les messagers. Depuis Adam, alayhi salam, en passant par Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, Muhammad, sallallahu alayhi salam, tous étaient sur la religion de vérité qui est unique, c'est la religion de l'islam. Et le judaïsme, le christianisme, ce sont des déviances de la religion de vérité sur laquelle étaient Moussa et Isa, alayhi salam. C'est pour ça que c'est une erreur de croire que Moussa était sur le judaïsme ou Isa était sur le christianisme. C'est faux. Le christianisme, ce n'est pas la religion de Isa. De la même manière que le judaïsme, ce n'est pas la religion de Moussa, alayhi salam. Ça, c'est des déviances. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui dit les Rafida. Est-ce que vous connaissez qui sont les Rafida? Qui connaît Rafida?
C'est une secte,
mais c'est... Qui peut me les... Imaginons, moi, je ne connais pas qui sont ces gens-là. Qui peut me les décrire facilement, simplement? Où est-ce qu'ils se trouvent?
Les Shia,
mashallah, mashallah. Ahsanti. C'est ceux qui se font appeler les Shia. Bien évidemment, nous, on ne les appelle pas les Shia, on les appelle les Rafida. Et le Khawarij, vous connaissez le Khawarij?
Non.
Annie, rapproche-moi, pour quelqu'un qui ne connaît pas, comment je vais les connaître? Facilement, simplement. Comme a fait Belkis.
Ils rendent tout le monde mécréant,
mashallah, parfait. Ils font des attentats, ils tuent des innocents. Ahsanti, ou ahsanta. Taïb, qui connaît les soufis?
Moi.
Qui peut me les définir facilement, de la même manière? Ils sont caractérisés par quoi? Non, c'est quoi?
C'est des innovateurs.
Ce sont une secte égarée, na'am. Une secte d'innovation, lakin. Qu'est-ce qui est, par quoi on peut les définir simplement?
Ils prennent Ali comme
prof. Ils prennent Ali, ça peut être Rafida et Sophia. Lakin, qu'est-ce que tu voulais dire? Quelqu'un d'autre qui a parlé? Ils dansent dans les mosquées. Ya salam, parfait. Ça, c'est excellent. C'est des gens qui dansent dans les mosquées ou là dans leur lieu d'adoration. Pour eux, danser, c'est une adoration qui les rapproche d'Allah. Comme les chrétiens, pour eux, également, chanter et danser, c'est une adoration. Et ils ont des invocations innovées que le Nabi Islam n'a pas enseignées. Ça, c'est Sophia. Donc, c'est comme si aujourd'hui, quelqu'un, après avoir compris qui sont ces sectes égarées, et on va citer une dernière, les frères musulmans, la secte des frères musulmans, qui peut me les définir, par quoi ils sont caractérisés, d'une manière simple, ou qui peut me citer une de leurs têtes, les plus connues en France.
Ils sont contre les musulmans?
Ils sont contre les musulmans. C'est pas très précis. Naam?
Les gouverneurs?
Ils sont contre les gouverneurs, bien évidemment. Toutes ces sectes sont contre les gouverneurs, sans exception. Lakin, on veut quelque chose qui les caractérise, spécifique à eux. Alors?
Ils attaquent la sunna?
Toutes ces sectes égarées attaquent la sunna. Lakin, les frères musulmans, est-ce que vous connaissez un de leurs leaders en France? Est-ce que vous connaissez Tariq Ramadan?
Oui, Tariq.
Oui.
Mohamed Hada, c'est un de leurs leaders en France. Taïb, ils sont caractérisés par quoi? Par la politique. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de politique religieuse en islam. Nous avons une politique religieuse qui est basée sur la vérité et sur les intérêts des musulmans. Mais ces gens-là se servent de la politique pour avoir des suiveurs et pour faire tomber les gouverneurs musulmans et se révolter contre eux. Voilà par quoi ils sont caractérisés. Et ils ont un parti politique auquel il faut adhérer pour être un de leurs membres. Taïb. Donc, maintenant, je veux venir à quoi ? Imaginez quelqu'un qui vous dit la religion sur laquelle était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la religion de Shia. Est-ce que c'est vrai ?
Non.
Non. Quelqu'un qui vous dit la religion sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la religion de l'Khawarij, ceux qui font des attentats, qui tuent des... Non. Donc c'est la même chose pour quelqu'un qui vous dit la religion sur laquelle était Moïse, c'est le judaïsme. C'est une secte égarée, ça, c'est pas la religion de Moïse. C'est la même chose que quelqu'un qui vous dit la religion sur laquelle était Jésus, Isa alayhi wa sallam, c'est le christianisme. Que ce soit... les catholiques ou là, les orthodoxes ou là, toutes ces choses-là, c'est des sectes égarées qui ne sont pas sur la même religion de Isa alayhi salam. Vous avez compris ça ? C'est pour ça Allah azza wa jalla. Naam, tafaddal. Oui. Tafaddal ya Maryam.
Pourquoi on dit toujours, pourquoi quand on sort des toilettes, on dit toujours Rofranek?
Rofranek, on demande à Allah son pardon. Pour.
Pourquoi?
Pourquoi? C'est une bonne question. Il y en a chaque invocation qu'on cite, en plus que ce soit enseigné par le prophète, que ce soit une cause de protection, une cause de grand bien pour le croyant, il faut savoir qu'elle a un sens adéquat à l'endroit ou le moment dans lequel on va la citer. Donc, quand tu vas faire tes besoins dans les toilettes,
bien.
D'accord ? Dans les toilettes, il y a quoi ?
On attend.
Il y a des chayatines.
Et dans les toilettes, il y a des chayatines. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, regarde tous les bienfaits qu'il t'a accordés pendant ce passage aux toilettes. Parmi ces bienfaits, ils sont très nombreux. Je ne peux pas les connaître et les citer tous. Mais je vais citer quelques-uns de ces bienfaits. Le premier, il t'a permis de te débarrasser de ces déchets et par la suite, tu te sens meilleur. Tu te sens meilleur après avoir sorti ces déchets qui était dans ton corps. Vous comprenez ?
Ah, oui.
Ça, c'est le premier point. Aussi, Allah t'a protégé du mal des shayatim. Car quand t'as dit « Bismillah, a'udhu billahi min al-khubth wal-khaba'ith » avant d'entrer aux toilettes, les shayatim ne pouvaient même pas te voir. Allah a mis un voile entre toi et eux. Ils ne te voient même pas. Donc, ils ne peuvent pas te faire du mal. Allah t'a protégé de leur mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a préservé. Donc c'est pour ça que quand tu sors, tu te rappelles que tu n'as pas été assez reconnaissant vis-à-vis des bienfaits d'Allah. Et tu dis à Allah, pardonne-moi. Tu m'as accordé tellement de bienfaits, mais moi je n'ai pas manifesté, je n'ai pas fait preuve d'une reconnaissance qui arrive à la taille de tes bienfaits sur moi. C'est pour ça que tu dis, Rufranak, pardonne-moi. D'accord ?
Oui.
Ok. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a redonné à son prophète, alayhi sallam, à la sortie, pas à la sortie des toilettes, à la fin de cette surah, de dire, lakum dinukum waliyadin, vous avez votre religion et j'ai la mienne. Vous avez votre religion et j'ai la mienne. Donc, ça c'est le désaveu, al-bara min dini al-kafirin, min dini al-mushrikin. C'est un désaveu vis-à-vis de la religion des polythéistes, la religion des égarés. Païb. Alors, on va prendre quelques questions, toujours dans notre série, qui concerne les questions sur Tawhid. طيب ما أعظم ما أمر الله تعالى به؟ Quelle est la chose la plus importante qu'Allah nous a ordonné?
التوحيد.
يا سلام.
التوحيد.
Qui peut m'expliquer ce que c'est التوحيد d'une manière résumée?
C'est adorer Allah seul sans associer.
Ya salam. Donc si quelqu'un vous dit Tawhid, écoutez bien. Écoutez bien car il y a un petit piège là. Si quelqu'un vous dit Tawhid, c'est d'adorer Allah. C'est juste?
Non,
c'est pas juste. C'est pas juste. Tawhid, c'est pas seulement d'adorer Allah seul. C'est de l'adorer déjà seul d'une manière exclusive et de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors de lui. De rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. C'est ça, Tawhid. Donc, celui qui adore Allah, comme on a vu, et adore autre avec lui, il n'a pas adoré Allah. Celui qui adore Allah seul, mais il n'a pas de problème avec ceux qui adorent autre qu'Allah. Il n'a pas, Tawhid. Tawhid, c'est quand tu adores Allah et que tu te désavoues de toute adoration vouée à autre qu'Allah. Excellent. Taïb, question suivante. Quelles sont les trois catégories de Tawhid?
Tawhid al-Rububiyyah, Tawhid al-Uluhiyyah.
Excellent. Excellent.
Tawhid al-Asma
al-Ma'rifa. Aïe, Tawhid al-Rububiyyah ou Tawhid al-Uluhiyyah. D'accord. Donc, on va les expliquer brièvement et simplement. Al-Tawhid est composé de trois catégories. Et le Mouahid, écoutez la question. Question piège. Le Mouahid, le monothéiste, le pur monothéiste, c'est celui qui a une seule catégorie de ces trois. C'est juste?
Non.
Il faut qu'il ait les trois.
Il faut qu'il ait les trois.
Ahsan Tom. Taïb, Tawhid est composé de trois catégories. La première, c'est l'unicité d'Allah dans la seigneurie. De croire qu'Allah a tout créé, seul. C'est Allah l'unique créateur, l'unique pourvoyeur, l'unique administrateur de toute sa création. La deuxième catégorie, c'est l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs, qui consiste à croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans tous ses noms et dans tous ses attributs. D'accord? Et la troisième et dernière catégorie, qui est la plus importante, c'est l'unicité d'Allah dans la divinité, dans l'adoration. Qui peut me l'expliquer? Yallah. Qui peut m'expliquer l'unicité d'Allah dans l'adoration?
C'est l'unicité d'Allah dans ses actes.
Dans les actes qu'on fait pour lui. Excellent. Et si on veut l'exprimer simplement, on peut dire, c'est d'unifier Allah avec toutes nos adorations. Yani, de vouer toutes nos adorations uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand t'invoques, t'invoques Allah. T'invoques pas le prophète, alayhi salallahu alayhi wa sallam. Quand tu sacrifies un mouton, tu le sacrifies pour Allah.
Quand, En disant bismillah.
Quand tu fais la salat, tu la fais pour Allah. Quand...
Tu la fais pas pour que les gens disent
bismillah. Et ainsi de suite. Quand tu sors la zakat, tu la sors pour que les gens disent que t'es quelqu'un de généreux?
Non.
Tu la sors pour quoi?
Pour Allah.
Pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand tu jeûnes le Ramadan, quand tu jeûnes le Ramadan, tu le jeûnes pour que ton père et ta mère disent de toi que tu es quelqu'un de brave, que mashallah, tu es bien, ou là tu le gênes, pourquoi? Tu jeûnes pour Allah. Exactement. Ablati, un instant. Oui, Mouallima, tfaddali. Tfaddali. On t'écoute. طيب يعني si tu jeûnes pour que ton père te respecte et t'admire, qu'est-ce que tu auras auprès d'Allah? Combien de hasana?
Zéro.
Zéro hasana. Oui. Oui, non.
Avant, je savais pas. Je croyais qu'on faisait pour les gens. J'ai prié et j'ai dit, oh, maman, regarde, j'ai prié, mais je ne savais pas.
C'est pas grave.
Allah, il me pardonne.
Allah, il pardonne tout. Et surtout que tu ne savais pas. Lakin, aujourd'hui, Ali, si tu dis à ta mère que tu as fait la salade, il n'y a pas de mal. Lakin, tu ne fais pas la salade pour qu'elle t'aime, ou pour qu'elle te respecte, ou pour qu'elle t'admire. Tu fais la salade pour l'amour d'Allah.
Oui. Tu fais la salade pour l'amour d'Allah.
Exactement. Allah, il pardonne tout. Alhamdulillah. Taïb. Ça, c'est les trois catégories de At-Tawhid. Taïb. On va parler de... La dernière fois, je pense qu'on a parlé d'un homme. D'un sahabi, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de rien? De qui on a parlé?
Moi, j'étais pas là.
Non, toi, t'es excusé, Ismaël. Ismaël, t'as toujours des excuses, toi, Harry. Surtout, là, t'es à Agadir, t'es en train de boire un thiaï avec une nana et manger le tagine. C'est pas grave, t'es excusé, toi.
Oustique.
Non.
Oustique.
Alors.
En plus, j'ai trouvé Ethan.
Hein?
J'ai trouvé Ethan.
Alors là, ben, je sais, allez, qu'est-ce que tu vas faire à Agadir si tu ne vois pas Atiaï et... Allah ma belle. Et après, si vous trouvez une plage où il n'y a pas du monde, Wadi, c'est bien aussi. Des balades dans les montagnes, dans les forêts. Le Maroc, c'est un pays magnifique. Comme la plupart des pays de l'islam. Il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de...
Moi aussi, je suis partie au Maroc.
Je suis déjà partie au Maroc, c'était très joli.
Ouais.
C'était trop beau.
Ouais.
Et Inch'Allah, qu'Allah vous facilite que vous installez définitivement dans ce pays avec les muslimines et que vous mangez avec eux les fruits, les légumes, tout ce qu'ils ont de bien là-bas, et que vous vous éloignez de ces koufars qui ne nous aiment pas. Et qu'on n'aime pas d'ailleurs, laquelle nous, on aime leur guider. On aime qu'ils soient guidés. Si on peut être la cause de la guider de quelqu'un, on le fera, même en donnant tout ce qu'on possède. Inch'Allah ta'ala. Donc on va parler d'une femme aujourd'hui qui s'appelle Ash-Shifa'u Bintu Abdillah Al-Adawiyya Al-Qurashiyya. Donc c'est une femme de Quraysh. C'est parmi les premières femmes qui ont émigré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Elle s'appelle Ash-Shifa Bintu Abdillah, radiyallahu anha. Donc c'est une Mekwaze qui a fait l'émigration, parmi les premières femmes qui ont fait l'émigration. Et sa kunya, c'est Ummu Sulayman. Elle avait un fils qui s'appelait Sulayman. C'est pour ça que c'est une sunna d'avoir une kunya, même pour vous. Par exemple, Maryam, elle peut avoir une kunya, Ummu quelque chose. Même si elle n'a pas de fils encore. Lana, il y a des femmes qui disent, moi je ne peux pas avoir de kunya, Lana, je n'ai pas encore d'enfant. Aïcha radiallahu anha, c'est quoi sa kunya? Si vous vous rappelez quand on a parlé de Aïcha. Ummu Abdillah. Alors que Aïcha n'a jamais eu d'enfant. C'est pour ça, c'est une sunna d'avoir une kunya. Et pour les garçons également. Pour les garçons, c'est bien d'avoir une kunya. Même si tu n'es pas encore marié. Sa kunya, c'était Ummu Sulayman, radiallahu anha. Et cette femme, elle avait une particularité. Elle avait plein de particularités. C'est une femme exceptionnelle, yani. Shifa radiallahu anha. Cette femme, elle savait écrire avant l'islam. Elle savait lire et écrire avant l'islam. Et elle est entrée en islam avant l'émigration. Et elle a enseigné, elle a ouvert ce qu'on peut appeler aujourd'hui la première... Fermez le micro. Mariam, Isa. Taïb, cette femme, Shifa radiallahu anha, elle a ouvert ce qu'on peut appeler aujourd'hui la première école pour femmes. Chez elle. Elle recevait les femmes chez elle et elle leur enseignait l'écriture et la lecture. Et parmi les femmes à qui elle a enseigné l'écriture à Hafsa binto Umar ibn al-Khattab, Umm al-Mu'minin, la mère des croyants, l'épouse du prophète alayhi sallam, Hafsa radiallahu anha, qui est la fille de Umar ibn al-Khattab. Elle lui a enseigné l'écriture. Et Nabi alayhi sallam avait beaucoup de respect pour cette femme, Shifa radiallahu anha. Il lui rendait visite. Et ça lui arrivait assez souvent de faire une sieste dans sa maison. Une maison, car Nabi alayhi sallam lui a donné une maison à Médine pour elle et pour son fils, radiallahu anha. Et ça lui arrivait d'aller faire une sieste chez elle. C'est pour ça qu'elle lui avait réservé un endroit pour lui, dans lequel elle a mis un matelas pour Nabi alayhi sallam, avec une petite couverture, un petit drap, qu'elle lui a réservé, et Nabi alayhi sallam, ça lui arrivait de venir faire une sieste dans sa maison, radiallahu anha. Elle avait un fils qui s'appelait Suleyman, radiallahu anha, également. Et Omar, radiallahu anha, pendant sa gouvernance, il donnait beaucoup d'estime à cette femme, Shifa. Il la consultait dans les affaires importantes. Il demandait son opinion, son avis. Et même, il a été rapporté qu'il lui a délégué d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable pour les femmes dans le marché. Si jamais elle voit une femme qui s'habille mal, qui ne se couvre pas correctement, elle l'a conseillé. Radiallahu anha wa ardaha. Shifa, donc, elle a enseigné à Hafsa radiallahu anha l'écriture. Et le Nabi alayhi sallam, un jour, il lui a dit, comme tu as enseigné à Hafsa l'écriture, enseigne-lui un remède. Car c'était, on peut dire entre parenthèses, c'était une femme médecin. Elle avait des connaissances dans la médecine aussi. Regardez, enseignante, médecin. C'est pour ça qu'elle sortait avec le Nabi alayhi sallam dans ses batailles et elle soignait les blessés et les malades. Donc elle avait des compétences dans la médecine. Nabi alayhi sallam lui a dit un jour, de la même manière que tu as enseigné à Hafsa radiallahu anha, l'écriture, enseigne-lui ses remèdes. Enseigne-lui ses remèdes. C'est un bien que la femme sache soigner ses enfants, qu'elle connaisse les remèdes naturels, et qu'elle les utilise pour les membres de sa famille. C'est une très très bonne chose. Et également, parmi yani, cette femme a énormément de qualités. Un jour, elle a rendu visite au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et elle disait au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam de lui donner des choses et le Nabi alayhi sallam, il s'excusait que ce n'était pas possible pour lui. Il y en a des choses matérielles. Et par la suite, elle est sortie de chez le prophète alayhi sallam, elle s'est rendue dans la maison de sa fille, qui était mariée avec un compagnon qui s'appelle Sharahbil ibn Hassana, radiallahu anhu. Sa fille était mariée avec ce compagnon. Et en rentrant chez sa fille dans sa maison, elle a trouvé que son mari était encore là alors que c'était l'heure de la salat. Car justement, elle est sortie de chez le Nabi Al-Sallam quand c'était l'heure de la salat. Car le Nabi Al-Sallam, il se préparait pour la salat. Païd. Et elle est arrivée chez lui, chez le mari de sa fille, et elle a trouvé qu'il était encore chez lui alors que c'est l'heure de la salat. Et elle a commencé à lui faire des blâmes et des reproches. Il lui a dit, mais c'est l'heure de la salat, tu étais encore chez toi. Car quand c'est l'heure de la salat, les hommes sortent pour la salat. C'est les femmes qui restent à la maison. Et sa fille est venue, et le mari de sa fille n'a rien dit. Lakin sa fille est venue, elle lui a dit, il faut arrêter de le blâmer, car nous n'avons qu'un seul vêtement pour nous couvrir, pour nos sorties. Et nos vêtements, on l'a prêté au prophète, alayhi salatu wassalam, car il l'a demandé. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de vêtements pour couvrir leur aura en sortant à l'extérieur. Pas un seul dans cette maison. Ils avaient un seul qu'ils avaient dépanné et ils l'ont prêté au prophète, alayhi salatu wassalam, car il n'avait aussi rien. Il a demandé quelque chose, ils lui ont donné ce vêtement. Et du coup, le mari ne pouvait pas sortir pour la salat. Allahu Akbar. Voilà l'état de pauvreté dans lequel étaient ces hommes. Lakin, c'était des hommes riches dans leur cœur. Car la vraie richesse, ce n'est pas la richesse de l'argent et des poches. C'est la richesse du cœur. Et après, elle s'est en voulu pour avoir insisté sur le prophète pour qu'il l'aide, alors que le Nabi n'avait même pas de vêtements pour se couvrir correctement. Et il a emprunté quelque chose à Shurahbil ibn Hassan, radiyallahu anhu. Elle s'est en voulu, radiyallahu anhu. Tayyib. Combien de temps est passé? Donc, comme je vous ai dit, Nabi A.S. lui a donné une maison et c'était, entre parenthèses, la première école pour femmes. Donc, c'est pour ça, dans l'islam, il est très important que les femmes apprennent la religion. Il est très important que les femmes apprennent à lire et à écrire et qu'elles apprennent leur religion. Car c'est elles qui vont enseigner cette religion et transmettre ce savoir à leurs enfants, aux membres de sa famille, de leur famille. Donc, hada, c'est quelque chose de très important. Et surtout pour les femmes, les hommes, ils peuvent sortir plus souvent et puis apprendre avec d'autres frères, là qu'une la femme qui reste tout le temps chez elle, qui reste souvent chez elle, il est doublement important qu'elle apprenne sa religion. Qu'elle apprenne sa religion. Donc vous voyez que cette femme, elle avait plusieurs savoir-faire. Et elle a eu plusieurs responsabilités. Et Annie, c'était une enseignante. C'était une femme médecin et c'était une femme qui avait des intérêts pour la da'wa, pour comme ordonner le convenable et interdire le blâmable. Omar radiallahu anhu, il l'a consulté dans les affaires importantes. Donc regardez tous les rôles qu'elle a accomplis. Radiallahu anha wa ardaha. On va peut-être se limiter à ça pour aujourd'hui. C'est déjà une heure avec la coupure qu'on a eue. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Est-ce que vous avez une question avec laquelle on peut terminer? Est-ce que vous avez une question ?
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله وجزاكم الله خيرا. الله يحفظكم جميعا. Et je vous dis à la semaine prochaine avec la permission d'Allah. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.